autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation pour nous interroger sur les rites funéraires de l'humanité. Comment, depuis les origines à toutes les époques et en tout lieu, avons-nous pris soin de nos morts? Pourquoi tant de pratiques différentes? Qu'est-ce qu'il y a de commun dans tous ces rituels? Qu'est-ce que cela dit de nous, les vivants, sur notre rapport à la mort, à nos morts? Autant de questions essentielles, existentielles, soulevées par notre invité, le médecin, archéologue et professeur d'anthropobiologie Éric Krubesi, dans une formidable enquête à remonter le temps menée aux quatre coins de la planète, de la Sibérie au Cameroun, en passant par l'Égypte pharaonique ou le sud de l'Europe actuelle. Enquête transversale et pluridisciplinaire qui est aussi le fruit d'une vie de chercheur consacrée aux rites funéraires. Autour de la question « Quel rapport entretenons-nous partout et depuis toujours avec nos morts ?» Bienvenue pour explorer la diversité et l'unité de notre condition humaine.
On peut se poser la question pourquoi les humains ont tant besoin de rites, mais je crois surtout autour de la mort, c'est extrêmement important. Et on voit que les rites servent avant tout de faire le deuil. Et c'est comme si on ne pouvait pas laisser simplement la mort telle qu'elle. Les rites aident à canaliser les émotions. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les gens ne peuvent pas se passer de rites. On a besoin d'entourer ce moment avec des gestes sur lesquels on peut s'appuyer et qui ont une efficacité pour vivre ce moment de deuil et de séparation. Je pense qu'il faut distinguer entre les rites religieux avec une dimension eschatologique, c'est-à-dire où on est préoccupé à savoir qu'est-ce qui va se passer avec le défunt après la mort, tandis qu'il y a les rites pour la communauté, c'est-à-dire comment leur permettre, après cette rupture, de retrouver l'unité, de retrouver la cohésion. Le défunt n'est pas au centre de l'attention, c'est les survivants.
Ce sont les vivants, les survivants qui sont au centre de l'attention, nous rappelle la professeure Maya Burguet, spécialiste en études indiennes à l'Université de Lausanne. Et pour comprendre justement les survivants, et en tout cas les vivants, il faut s'intéresser aux morts. Alors là, je vous cite, Éric Krubesi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en duplex avec nous depuis les studios de France Bleu à Toulouse, où le médecin archéologue que vous êtes, professeur d'anthropobiologie à l'université Toulouse 3, qui dirigeait le laboratoire anthropologie moléculaire et imagerie de synthèse, laboratoire qui rassemble aussi bien des archéologues que des médecins légistes, des anthropologues que des microbiologistes, des généticiens ou des historiens. Car quand on s'intéresse à la mort, Éric Krubesi, rien n'est simple. C'est ce que vous dites en à vos propos de votre formidable essai « Aux origines des rites funéraires » qui vient de paraître chez Odile Jacob et dont nous avons d'ailleurs un exemplaire à vous offrir, chers amis auditeurs. Pour vous donc, Éric Krubesi, quand on s'intéresse à la mort, il est indispensable de croiser les regards et les approches, les sciences humaines et les formidables possibilités ouvertes par la génétique et la génomique.
Oui, ça reste, je pense, avant tout une histoire de sciences humaines. Mais il est évident que pour les sociétés du passé, l'apport de la génomique de ces dernières années est fondamental, puisque ça permet, par exemple, de retrouver très facilement des liens de parenté entre sujets, donc de savoir si des inhumations où il y a plusieurs sujets sont celles de famille. Ça vous permet aussi de connaître les causes de décès, si elles sont infectieuses. Tout élément qui jusqu'à présent était totalement impossible à retrouver, si vous voulez.
Alors c'est ce que vous faites et c'est ce que vous avez fait tout au long de votre vie de chercheur, loin d'être terminée, mais que vous avez consacré aux rites funéraires, en commençant par faire parler les morts et les nécropoles de tous âges, en appliquant donc des techniques de médecine légale à l'archéologie funéraire, ce qui était une révolution. Vous avez ensuite poursuivi en appliquant donc les techniques de biologie moléculaire et de séquençage du génome pour comparer les rites funéraires passés à ceux d'aujourd'hui, et ce sur tous les terrains, du Cameroun à la Sibérie orientale, en passant par l'Égypte, la Bolivie, l'Europe du Sud. C'est à la fois, en lisant votre livre, c'est ce qu'on découvre, à la fois la diversité de tous ces rites funéraires, mais aussi leurs points communs qui vous ont poussé à faire cette enquête et à écrire cet ouvrage unique en son genre, Éric Krubesi.
Alors je dirais que c'est en faisant ces enquêtes que j'ai eu l'idée de rechercher les points communs. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai eu la chance de fouiller de très nombreuses nécropoles sur plusieurs continents, et en France notamment, mais aussi en Égypte et en Sibérie. Et si je cite l'Égypte et la Sibérie, c'est parce que j'ai eu la chance dans ces pays de fouiller des tombes qui sont souvent, notamment en Sibérie, totalement intactes, c'est-à-dire gelées par la glace. Mm-hmm. Donc ce sont des tombes qui sont gelées et pour lesquelles on a énormément d'indications ethnologiques et historiques. Et donc j'ai pu confronter ce que je trouvais aux indications. Donc ça a été une grande source de connaissances. Et en même temps, si vous voulez, lorsque j'essayais de publier toutes ces découvertes, eh bien, je m'apercevais qu'il était difficile de faire des comparaisons. Et alors, j'ai recherché effectivement qu'est-ce qui pouvait avoir structuré la mort sur différents continents à différentes époques, afin d'en avoir de grandes étapes, et en ayant ces grandes étapes, de pouvoir effectuer effectivement des comparaisons entre culture et société. Et ça a pris du temps, effectivement.
Ça a pris du temps, c'est passionnant. Le sous-titre de votre livre, je le donne parce qu'il va indiquer ce que vous avez trouvé, ce sur quoi vous réfléchissez. Ça s'intitule donc « Aux origines des rites funéraires, voire cachés, sacralisés ». Au fond, ce sont ces trois étapes de manière complètement différente qui sont nécessaire à chaque fois et qui montre c'est pas un travail de deuil, mais le rapport que les humains peuvent avoir avec les morts. Il faut d'abord les voir, qui sont bien morts, c'est ça? Enfin, je schématise, les cacher d'une manière ou d'une autre, et puis les sacraliser pour supporter tout ça et pour continuer et vivre, en fait.
Tout à fait. Et on a une augmentation, en fait, au cours de ces trois étapes de la diversité entre les cultures et à travers les époques. C'est-à-dire qu'il faut voir le mort pour réaliser effectivement, comme vous l'avez dit, qu'il est mort. Et ça, c'est une étape qui est excessivement importante parce que quand on regarde autrui, vivant, on ne le regarde pas simplement, si vous voulez, c'est pas simplement une question de physique avec des photons qui viennent sur la rétine et on dit tiens, c'est telle personne. Oui. C'est une intégration totale de la personne avec ce qu'on peut aimer, détester, etc., de tout ce qu'elle est. Mmh. Et donc, quand on va regarder un sujet qu'on aime ou qu'on déteste d'ailleurs, qui est décédé, là, quelle image fait notre cerveau? Et ça, c'est une question qui n'a pas encore été totalement résolue par les neurosciences, si vous voulez. C'est-à-dire que les philosophes se sont déjà posé cette question. Mmh. On regarde quelqu'un qui n'est plus, mais qui est toujours là. Alors là, c'est quand même, si vous voulez, un des éléments, je dirais, très étranges pour la conscience humaine. Et donc, on réalise qu'il est décédé. C'est tellement difficile, si vous voulez, que je pense qu'il faut effectivement le cacher. Alors ensuite, justement, qu'importe le cacher. D'ailleurs, les Grecs le disaient eux-mêmes, qu'importe le cacher, que ce soit sous terre ou dans le feu. Et donc là, il va y avoir cette phase de cacher. Et ensuite, ce mort, une fois caché, eh bien, il ne peut plus parler. D'accord ? Parce que depuis qu'il est mort, il ne peut plus parler. Et pourtant, l'homme, de par son cerveau, ses capacités et sa conscience, va continuer, si vous voulez, à soit mentalement, soit avec d'autres, à faire parler ce sujet. Et justement, la première intervenante au début de l'émission...
Oui, la professeure Maya Burger. Oui.
Mais qu'est-ce que c'est faire son deuil, si vous voulez? Ça, c'est une des grandes questions qui a été posée depuis le début du XXe siècle par la psychanalyse. Qu'est-ce que c'est faire son deuil? C'est-à-dire, est-ce que c'est oublier ou est-ce que c'est déconstruire par la pensée toutes les situations vécues avec le défunt pour effectivement en construire d'autres qui sont apaisés. Il va falloir effectivement arriver à passer à autre chose, c'est-à-dire à faire partir le mort. Et les rites funéraires sont effectivement là pour faire partir le mort.
Alors vous mettez en garde aussi contre une sorte de tentation morbide aussi ou sensationnelle, parce que c'est complexe de faire des recherches autour de la mort. Vous le dites vous-même, on est tous des humains, on est tous soumis et confrontés à ça. Qu'est-ce que ça change et comment on fait pour avoir justement un regard à la fois très proche pour étudier ça d'aussi près et en même temps garder la distance nécessaire pour arriver à l'observer, à l'analyser, à en tirer des choses pour nous tous, universel, vraiment.
Je crois que la chance que j'ai eue, c'est effectivement d'avoir pu juxtaposer ces approches qui sont, comme vous le dites, très proches, et en même temps des approches très distantes, parce que quand on fouille effectivement des corps qui ont plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'années ou milliers d'années, dont on ne sait pas qui c'est, ça devient des objets archéologiques. Donc à partir de ces corps, on peut effectivement avoir une approche qui est toute scientifique. Alors même que déjà, quand on arrive en Sibérie et qu'on se retrouve face à des corps qui sont gelés et qui pour certains sont encore, je dirais, étonnamment présents d'un point de vue physique, là, ces éléments sont plus, je dirais que c'est plus difficile effectivement à avoir un regard qui est purement scientifique pour une simple et bonne raison, c'est que ça interroge beaucoup plus. un squelette, vous vous dites, bon, ben, il est posé sur le côté ou sur le dos, et puis on en reste là. Tandis que quand vous êtes face à un sujet féminin qui est très bien conservé...
Et notamment, et ça, c'est une sépulture que vous avez découvert, mis au jour en Sibérie, hein, d'une jeune femme chamane, a priori, parfaitement conservée.
Tout à fait. Il y a ça, puis on avait une autre qui avait tous ses vêtements mis à l'envers, si vous voulez, c'est-à-dire la chemise ouverte, parce qu'il avait fallu l'agrandir sur le manteau, et le manteau sur la peau, mais le manteau orienté avec les manches vers en avant, si vous voulez. Donc là, on se pose effectivement des questions sur, je dirais, sur l'entourage. Mais pourquoi avoir fait ça? Et à partir du moment où on a des documents ethnologiques, ça permet effectivement de s'interroger beaucoup plus sur la question de la mort et des sentiments qu'avaient les vivants pour la personne décédée.
Et ce, depuis toujours, hein, puisque vous avez commencé par travailler sur les morts en archéologie, donc dès la préhistoire, autour de la question depuis quand les hommes enterrent-ils ou incinèrent-ils, prennent-ils soin de leurs morts? Les réponses peuvent évoluer à chaque découverte, nous faire remonter encore plus loin dans le temps. À ce sujet, Éric Rubézy, je vous propose d'écouter l'éclairage de l'archéo-anthropologue Anne-Marie Tullier sur l'émergence du rite funéraire durant la préhistoire. Arrêt sur une des, si ce n'est la toute première tombe de l'humanité, exhumée dans la grotte de Kavzé, dans la région d'Israël actuelle, il y a environ 100 000 ans.
Il s'agit de sépultures individuelles. Par exemple, je prendrai le cas d'une sépulture de Kavzé. On a un enfant qui a été déposé dans une fosse en position fléchie sur le côté. On a, dans ce cas-là, il s'agit d'un adolescent dont l'âge au décès est autour de 13 ans. Et cet enfant a été déposé dans une fosse près de la base du remplissage de la séquence moustérienne. Et il a été accompagné d'un dépôt archéologique représenté par une partie de bois de cervidés. C'est un cas assez
particulier. Il était enterré avec un animal.
Une partie d'un animal. Et c'est le cas actuellement le plus ancien connu, c'est pour ça que je le mentionne. Donc, dans un niveau qui est daté autour de entre 90 et 100 000 ans avant notre ère. Et c'est un cas unique. Et il a fallu s'interroger sur ce cas unique. Il y avait d'autres sépultures dans le même site, mais c'était le seul qui était accompagné de ce qu'on appelle un dépôt archéologique associé, qui était déposé à la hauteur des mains, qui avait été ramené près du visage.
Donc c'était intentionnel.
Donc là, on a une preuve supplémentaire de l'intentionnalité du dépôt. C'est un cas un peu extraordinaire parce que très souvent pour cette période-là, on n'a pas d'exemple de dépôt archéologique associé. On doit donc discuter de l'intentionnalité du dépôt uniquement à partir des vestiges osseux qui nous sont restitués et donc qui indiquent secondairement la position du corps et le dépôt dans une fosse. Éventuellement, on peut mettre en évidence des effets de paroi, puisque sans paraître trop macabre, quand le corps se décompose, les parties molles, c'est-à-dire tous les tissus, les muscles, les ligaments, se disparaissent. Et donc, les ossements peuvent éventuellement bouger si, par exemple, le corps était abandonné à l'air libre. Si, en revanche, il est déposé dans une fosse et que, par ailleurs, cette fosse a été immédiatement comblée, eh bien, lors de la décomposition des muscles, des ligaments, il y a un maintien des connexions anatomiques qui nous donne une indication supplémentaire de la protection du corps au moment du dépôt.
Vous voulez réagir, Éric Rubézy, à cet éclairage d'Anne-Marie Tillier sur cette tombe de Kavzé, la première ou pas, hein, mais enfin une des toutes premières tombes que nous avons exhumées de l'humanité.
En fait, la question, c'est de savoir reconnaître les tombes. Et je dirais que dans le cas de Kavzé, il s'agit indéniablement de tombes parce que on a des parallèles ethnologiques qui sont en fait la totalité des tombes que nous connaissons aujourd'hui, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on creuse une fosse et on dépose un sujet. Et donc là, le parallèle ethnologique, je dirais, du quotidien, fait qu'on retrouve cette tombe à 100 000 ans. Et effectivement, c'est une des plus anciennes, sinon la plus ancienne tombe connue. La question qui se pose, c'est savoir, est-ce qu'il y avait des tombes avant? Quelles étaient-elles? Et ensuite, est-ce qu'il y a pu y avoir un traitement du corps, finalement, bien antérieur aux tombes? Ce à quoi je me suis interrogé. C'est-à-dire qu'une tombe, on a vu le sujet, on l'a caché, et ce sujet a été caché et ensuite il a été métamorphosé intellectuellement, puisqu'on n'est pas revenu sur la tombe. Mais pour les vivants, il y avait un endroit où il y avait le mort. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y avait d'autres d'autres types qui auraient pu être, je dirais, des tombes, mais qui seraient plus difficiles à envisager. Or, il y a deux ensembles actuellement à travers le monde qui n'ont pas posé question parce qu'ils semblent, de mon point de vue, résolus, si vous voulez, un en Afrique du Sud et l'autre en Espagne, où il y a plus de 350 000 ans, des sujets qui n'appartenaient pas à notre espèce, mais qui étaient des hominidés, des cousins, ont déposé dans une grotte des sujets. Alors là, effectivement, on ne peut pas mettre en évidence le fait qu'ils aient creusé une fosse, puisqu'il n'y avait pas de, fosse. Mais pour moi, si vous voulez, le fait de déposer un ensemble de sujets dans une grotte, eh bien, ça fait que pour la communauté des vivants, on sait, une fois qu'on les a eu déposés, ou jetés d'ailleurs, qu'ils étaient là, et il y a eu cet acte volontaire, si vous voulez, de les laisser dans la grotte. Et donc les vivants pouvaient soit penser, soit parler, si vous voulez, de ces morts. Et donc, il y a eu un avant et un après. Et en ce sens, si vous voulez, plus que la tombe, il y avait cette idée de deuil qui était commencée. Ce qui avait, je me permets de dire, par exemple, en conclusion, que, en paraphrasant Heidegger qui avait dit ça à propos de l'art, il n'y a pas de tombe préhistorique parce qu'en fait, du moment qu'il y a une tombe, on est déjà dans l'histoire puisque les sujets qui ont inhumé un cadavre, en fait, vont parler de lui, c'est-à-dire qu'ils vont faire de l'histoire. Quand vous parlez de quelqu'un qui est décédé, vous faites de l'histoire, si vous voulez. Et donc, il y a cette émergence de la conscience. Donc, je crois qu'elle était là à partir de 350 000 ans.
Et peut-être même avant, c'est ce que vous dites, c'est ça qui est, extrêmement troublant aussi dans cette enquête, dans ce travail sur les rites funéraires. Au fond, est-ce que notre humanité n'a pas commencé comme ça, alors que ce soit en inhumant ou pas, mais ça peut être en momifiant, en préservant, en se rendant compte du fait qu'il y a la mort. Vous parliez à l'instant de la question de la conscience. Avant de poursuivre sur ce sujet, je vous propose une nouvelle question tout de suite, soulevée par Thomas Cavaillé-Foll du mensuel Science et Vie.
Alors, on pense que les rites funéraires sont nés avec une conscience de la mort. Est-ce que la conscience de la mort a-t-elle pu aider à développer une conscience tout bonnement, la conscience humaine ?
Que pouvez-vous répondre ou qu'en pensez-vous, Éric Rubézy ? Parce qu'on a vraiment l'impression que c'est lié notre humanité à ce soin des morts, quels qu'ils soient, même bien avant qu'on les ait enterrés.
Ce que je défends dans cet ouvrage, c'est que justement, si vous voulez, la conscience de la mort, je dirais qu'en tout cas, la mort de proches a été un grand facteur qui a développé des émotions. Et développant des émotions, ça a développé la conscience. Mmh. Et que c'est un élément sur lequel, jusqu'à présent, on avait peu insisté, si vous voulez, mais qui est cette relation entre conscience et émotion. Ça, c'est connu. On sait que plus il y a d'émotions, plus il y a de conscience avec un aller-retour. Et que plus il y a d'émotions et de conscience, eh bien, plus on va avoir effectivement l'apparition de pensées raisonnées, etc. Ce qui a augmenté certainement les interactions au sein du groupe. Et augmentant cette interaction au sein du groupe, on a pu avoir un développement de la conscience. Et la question que je me pose, c'est à partir de quand ça a pu apparaître. Alors j'ai étudié la mort dans le monde animal, où on a de plus en plus de données. Et on s'aperçoit, si vous voulez, que chez les grands singes notamment, on a de plus en plus d'observations d'une émotion lors de la mort de sujets très proches. C'est souvent les vieux amis pour les hommes, c'est souvent la mère chez les chimpanzés, pour certains les chimpanzés femelles. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas généralisé. C'est-à-dire que cette idée, si vous voulez, ça touche simplement certains sujets. Alors que dans notre espèce, d'une façon générale, l'absence d'affliction est considérée comme pathologique. Et ce qui est très intéressant, c'est que vers 3 millions d'années, on voit apparaître énormément de restes. Et on s'est toujours demandé pourquoi il y avait plus de restes à ce moment-là qu'avant, et qu'en même temps, il y a très peu de restes de grands singes, si vous voulez. Et l'idée que je développe, c'est que peut-être à ce moment-là, on commençait, si vous voulez, à prendre, je dirais, soin des morts, entre guillemets, en les isolant, par exemple, ou en les jetant dans des trous, en les mettant dans des îles pour qu'ils soient moins mangés par des prédateurs. Enfin, on peut imaginer toutes sortes d'hypothèses, tout simplement, si vous voulez, en préservant un peu les cadavres.
En préservant les cadavres. Alors, vous avez d'ailleurs vous-même, Éric Rubézy, développé, ce que nous a dit un de vos étudiants d'ailleurs, véritablement un protocole pour essayer de comprendre quand on trouve un corps, s'il est tout seul, s'il est isolé, dans quel état il est, c'est ça ?
Disons qu'il y a eu, avant moi, beaucoup d'écoles de fouilles qui ont insisté sur la nécessité de bien fouiller les squelettes, etc. Donc j'en suis en quelque sorte un participant et un héritier tout à la fois. Mm-hmm. Mais ce sur quoi j'ai beaucoup insisté, si vous voulez, c'est quand on voit une tombe, c'est par exemple, Anne-Marie Tillier nous parle de cette tombe de Cavezé avec ce bois qui a été déposé intentionnellement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est en fait de reconstituer la séquence des événements. D'accord ? C'est-à-dire comment le corps est arrivé là ? C'est toujours la question que je me pose. Est-ce qu'il a été arrangé in situ ? Ou est-ce qu'on l'a amené dans quelque chose ? D'accord ? Et par exemple, j'ai beaucoup été aidé en ça par mes fouilles en Égypte. Où en Égypte, j'ai eu la chance de fouiller un cimetière d'il y a plus de 3000 ans avant Jésus-Christ, où il y avait plus de 1000 sujets inhumés. Et en fait, on se posait toujours cette question de savoir, mais est-ce que les sujets, on les a amenés, on les a arrangés in situ, ou est-ce qu'ils ont été amenés comme ça ? Et on s'est aperçu à la fin que là où les archéologues voyaient traditionnellement une tombe avec des offrandes, eh bien qu'en fait, ce n'était pas du tout ça la distinction qu'il fallait avoir. Il y avait une distinction entre les tombes où le sujet avait été arrangé in situ et les tombes où le sujet avait été amené ligoté, par exemple. Parce que dans celui où il avait été amené arrangé in situ, en fait, il y avait toute une cérémonie qui se passait dans le cimetière. On creusait une fosse dans le sable, on amenait un sujet certainement sur un brancard ou voire sur le dos d'autres sujets. Et là, on commençait à l'arranger dans la tombe. Et au moment où on l'arrangeait dans la tombe, on lui faisait prendre différentes postures, mais ces postures, elles étaient faites, nous avons pu le montrer, pour ceux qui suivaient l'opération. C'est-à-dire que, je me souviens, c'est une tombe qui a pendant longtemps été présentée au Louvre sous forme de photo, dans le département d'égyptologie, qui date de 3500 avant Jésus-Christ, avec une femme qui tient son enfant dans les bras. C'est vraiment quelque chose de très touchant. Mais en fait, ce très touchant, c'est une mise en scène, si vous voulez. Puisque
c'est un rite funéraire, c'est un enterrement, c'est une cérémonie.
Oui, c'est une cérémonie et en même temps, c'est effectivement une terrible mise en scène. Parce qu'une femme qui tient un enfant dans les bras, c'est très touchant. Sauf que là, les deux étaient décédés. Et donc, on les a arrangés comme ça. Et on a pu montrer que la façon dont étaient disposés les pots autour, c'était pour que les vivants le voient comme ça, si vous voulez.
Pour les vivants, toujours pour les vivants, finalement.
Toujours pour les vivants. Et donc, cette idée, si vous voulez, je l'ai développée pour savoir effectivement comment on déposait les corps dans les tombes, comment ça avait été amené, et je dirais entre guillemets, la valeur de ce qui avait été amené, mais la valeur en termes de, non pas tant économique, mais qu'est-ce que ça représentait pour les vivants.
Qu'est-ce qui se passait dans leur tête et dans la tête des vivants. On va revenir sur votre exemple juste après avoir écouté justement autour de la question de nos rites funéraires aussi divers et variés que notre humanité. On va écouter un chant traditionnel coréen pour tasser le sol de la tombe. Impressionnant chant traditionnel coréen pour tasser le sol de la tombe autour de la question des rites funéraires et autour de votre ouvrage, Éric Rubézy, aux origines des rites funéraires. Vous avez beaucoup travaillé, vous l'avez dit, en Sibérie notamment, en Sibérie orientale. Vous avez mis au jour la sépulture d'une jeune femme parfaitement conservée et d'autres qui vous permettent d'étudier et de comprendre quoi ? De remonter à d'autres manières de prendre soin de ces morts.
Un exemple que j'aimerais développer, celui qui est particulièrement intéressant, parce que cet exemple m'a permis ensuite de recomprendre aussi d'autres éléments de l'Égypte prédynastique. Donc avec cette idée, si vous voulez, que ce qu'on voit sur un continent peut vous éclairer sur ailleurs. Quand, les anciens Yakoutes au XVIIe, XVIIIe siècle devaient être enterrés comme des chasseurs guerriers. C'est-à-dire qu'il fallait absolument qu'ils emportent dans la tombe un arc et une batasse, l'équivalent d'un sabre, si vous voulez.
Les Yakoutes de Sibérie, bien, hein, c'est...
Les Yakoutes de Sibérie, tout à fait. Eh bien, ce qui nous a intéressé, c'est que quand on fouille plus d'une centaine de tombes, on s'aperçoit que des sujets sont simplement déposés avec un arc et une batasse. Mais quand vous avez un arc, si vous voulez le faire fonctionner, il vous faut des flèches. Pour ces flèches, il vous faut un carquois. Pour ce carquois, il vous faut un protège-carquois. Ensuite, pour le mettre sur le dos, il faut un suspenseur du protège-carquois et du carquois. Il vous faut un brassard d'haché et la même chose, si vous voulez, pour le sabre. Eh bien, on n'a aucune tombe où on rencontre la totalité de ce que je viens de vous dire. Ben, ça veut dire qu'il y avait des choses qu'il fallait respecter, mais ça veut dire qu'il y avait d'autres choses qui étaient gardées par les inhumains. Ça pose la question de l'héritage. Qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on met dans la tombe? Qu'est-ce qui va être distribué? Et donc ça pose la question de finalement, qu'est-ce que c'est qui lui appartenait en propre? Et qu'est-ce que... Parce que les textes disent qu'il faut qu'il parte avec tout, théoriquement. Mais en fait, les vivants vont garder une partie. Alors l'arc, par exemple, ils ne risquent pas de le garder parce que les arcs, ils étaient faits sur mesure pour le sujet. Donc ça, on ne risquait pas de le garder. Tandis que pour le carquois et autres... Et donc ça pose la question d'une part de l'héritage, et d'autre part, la façon d'interpréter ce qu'on trouve dans la tombe. C'est-à-dire qu'il y a cette idée, si vous voulez, Anne-Marie Tillier le disait, on a un dépôt archéologique. Mais qu'est-ce que c'est qu'un dépôt archéologique? Ça correspond à quoi pour les vivants? C'est ça la question qui est posée. Ce qu'on trouve dans les tombes, ça correspond à quoi?
On ne peut plus demander aux vivants, puisque les vivants ne sont plus là pour nous le raconter.
les vivants ne sont plus là pour nous raconter. Mais quelque chose, si vous voulez, qui apparaît, et c'est là, quand vous parliez, effectivement, que j'ai mis au point une grille de lecture, c'est que j'avais été très attiré aussi par l'attention que dans un collègue, si vous voulez, qui est habitué qui travaille dans les cimetières, au décès de nos contemporains, me disait, mais c'est fou, quand un enfant décède, ils partent tous avec leur doudou, etc. Et donc la question, si vous voulez, qui se pose, c'est un enfant avec son doudou, est-ce que c'est la même chose que un Yakout de Sibérie orientale qu'on enterrait avec son arc et son sabre? Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on met de moins en moins de choses dans les tombes, mais il suffit d'aller à un enterrement pour voir que les fleurs sont nombreuses. Donc, est-ce que tout ça correspond à quoi? En fait, quand quelqu'un meurt, les proches vont faire don de leur temps, de leur tristesse. Et en même temps, il y a une volonté de se séparer pour montrer qu'une nouvelle phase commence, si vous voulez. Et donc, il y a des dons qui sont faits. Alors, effectivement, à l'heure actuelle, les dons ont souvent été ritualisés par, dans un premier temps, le religieux, dans un second temps, l'État. Mais il y a cette volonté, si vous voulez, de faire des dons et ensuite de garder aussi et de déposer aussi avec le sujet des choses qui seraient tellement intimes que les vivants ne pourraient pas continuer à les voir parce qu'ils considèrent que ça ne leur appartient pas.
Et parce que ce serait un trop grand rappel du mort, justement.
Oui, mais c'est un trop grand rappel, mais en même temps, ça ne leur appartient pas. Alors, c'était, je dirais, pour les parents, le doudou, ben, il appartenait à l'enfant, mais c'était eux qui l'avaient acheté, si vous voulez. Mais en fait, c'est trop intime. Et donc là, ça m'a rappelé, effectivement, des choses qu'on voit dans les familles. Quand quelqu'un décède, est-ce qu'il faut lui mettre ses lunettes dans le cercueil? Est-ce que... À l'heure actuelle, ça se pose beaucoup en Russie. Est-ce qu'il faut inhumer quelqu'un avec ce qu'il a de plus personnel, son téléphone portable, si vous voulez?
Bien sûr, de nouvelles donc, questions se posent, mais oui.
Tout à fait. Et donc, c'est la question du don, si vous voulez. Donc, on va faire don. Et au moment où on fait don, il y a en même temps, si vous voulez, cette volonté de... Quand on met un arc et un sabre dans une tombe, c'est pour montrer ce qu'est le sujet ou ce qu'il a été. C'est-à-dire la question du sujet qui a 70 ans et qui est inhumé avec un arc et un sabre, et dont la pathologie, justement, vous parliez de regard croisé, montre qu'il était impotent depuis quelque temps, il était incapable de se servir de son arc. Donc là, on veut, si vous voulez, le resocialiser. Donc on veut le voir partir dans l'état où il était quand il était plus jeune.
Si au fond, ce que vous nous montrez à travers ce livre, à travers vos études, Éric Rubézy, c'est que finalement, la mort, évidemment, que c'est le grand point d'interrogation pour tous les humains et qu'on a eu différentes manières de l'aborder, souvent en collectivité, qu'il y a des codes, des rituels, qu'ils aient été religieux ou qu'ils soient aussi nationaux, guerriers, enfin, qu'il y a tous les codes possibles et imaginables. Au sujet de ces codes, nouvelle question, je ne sais pas si vous pour y répondre d'ailleurs, mais elle est soulevée par Jean-François Marmion, qui est psychologue, auteur scientifique et rédacteur en chef de la revue Le Cercle Psy. Écoutez.
A-t-on un moyen de savoir si les rites funéraires de la préhistoire étaient toujours sincères, ou si des gens s'obligeaient à pleurer, à verser des larmes, à se rouler par terre parce que les usages sociaux l'exigeaient?
Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? En tout cas, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre approche, vous qui avez tellement, entre guillemets, fait parler les morts et les vivants qui les ont enterrés surtout?
Alors, répondre oui, parce que c'est une question qui a été beaucoup étudiée, si vous voulez. Elle a été beaucoup étudiée, en fait, à la fin du 19e siècle et au début du 20e. C'est Durkheim qui était sociologue et qui disait ben, finalement, les peuples primitifs, notamment les aborigènes australiens, qu'on considérait à l'époque comme les plus primitifs, si vous voulez, des populations avec les Fuégiens, n'ont aucune tristesse, puisque ils font semblant de pleurer, etc. Ce qui était en partie vrai, parce que c'était dans leur rite. Ensuite, la question qui se pose finalement, c'est est-ce que c'était sincère ou pas? C'est la question en fait du deuil, si vous voulez. C'est-à-dire que la société va entourer les vivants, les rescapés et ceux qui souffrent, pour leur montrer qu'elle est là, si vous voulez. Et donc, quelle attitude va prendre la société? Alors, ça varie beaucoup. Vous avez des sociétés où effectivement, ceux qui sont là vont se mettre à pleurer. Mmh. Alors, soit spontanément, soit on va les forcer, c'est la question des pleureuses, c'est ce que dit ce collègue. Mais en tout cas, les ethnologues qui ensuite sont allés dans étudier ces populations au début du XXe siècle, eux disent, mais en tout cas, la sincérité des proches est vraie. Mais c'est la totalité de la population.
Oui, c'est une manière d'entourer les endeuillés, en fait.
C'est un peu comme si on disait nous allons soit à l'église, soit lors d'une cérémonie laïque, on entoure la famille, mais est-ce que les gens actuellement qui y vont sont sincères? Oui, ils sont sincères pour la famille, si vous voulez. Mm-hmm. Mais le fait, effectivement, de reprendre une prière à la fin, même si on n'est pas croyant, en fait, on le fait pour la famille. Bien sûr. Il y a une question de sincérité.
Et on le fait toujours, on y revient, on s'en rend compte dans votre discours, on le fait pour les vivants. Hein. Il est clair que c'est vraiment pour les vivants. Alors, il y a de multiples questions abyssales soulevées dans votre livre, dont je rappelle d'ailleurs à nos amis auditeurs que nous avons un exemplaire à vous offrir, si vous le demandez par mail ou sur notre page Facebook, aux origines des rites funéraires. Il y a un chapitre, plusieurs chapitres très étonnants, notamment autour de la question de la mort justement en collectif. Est-ce que c'est une affaire privée ou est-ce que c'est une affaire publique? Et en Occident, enfin en Europe, c'est la guerre de 14-18 et les centaines de milliers de morts, les charniers, enfin les morts à ne plus savoir qu'en faire, si je peux dire de façon macabre, qui ont véritablement soulevé cette question. Pour le comprendre d'abord, petit rappel des faits avec cet extrait du film Au revoir là-haut, le film d'Albert Dupontel réalisé à partir du livre de Pierre Lemaître qui met en avant précisément cette question des monuments aux morts de la guerre de 14.
Ici comme partout, dans les villes, les villages, les écoles, les gares même, tout le monde veut son monument aux morts.
Et alors?
Il dit c'est pour nous.
Tu veux vendre des monuments aux morts?
Il dit non aux vivants.
Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est beau, c'est je trouve ça joli. Mais c'est compliqué ton affaire.
Mais si,
c'est pas le tout de les dessiner. Une fois qu'ils seront vendus, il faudra les assembler, les construire, les fabriquer, les transporter. Il faut de l'argent, beaucoup d'argent.
Il dit on les fabrique pas, abruti, on les vend seulement.
Enfin, mais une fois qu'ils seront vendus, il faudra bien les fabriquer.
Il dit on les vend seulement. Là, il rigole.
Ah, j'avais compris. Et après?
Il dit on se barre avec la caisse.
Extrait d'Au revoir là-haut, ou comment De Gueules cassées monte une arnaque assez monumentale au monument aux morts de la guerre de 14, qui illustre justement, Éric Rubézy, comment la mort, dans l'horreur de 14, après 14-18, enfin pendant 14-18, prend une autre dimension aussi.
Oui, parce que si vous voulez, vous avez parlé de charnier. Dans votre présentation. Or, en fait, ça a été l'inverse, si vous voulez. Ah. C'est-à-dire que jusqu'à la guerre de 14-18, les morts sur les champs de bataille étaient regroupés dans des charniers. Okay. Bon, on sait par exemple qu'à Austerlitz, l'ensemble des cadavres de la bataille ont été regroupés dans 22 charniers qui sont disséminés sur le champ de bataille. Mmh. Or, durant la guerre de 14-18, pour la première fois, de façon généralisée, notamment au sein de l'armée française, on a voulu donner une individualité aux morts. C'est-à-dire, c'est l'origine des cimetières militaires. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on n'a plus de charniers, mais on a effectivement des tombes qui sont individualisées. Ça montre, si vous voulez, c'est l'émergence durant la guerre de 14-18 de la, je dirais, de l'individualité qui ensuite va se manifester durant, à la fin de la guerre, avec effectivement les révoltes des soldats qui se demandent mais pourquoi mourir pour cette boucherie à laquelle finalement nous n'avons rien à faire. Et donc là, c'est véritablement la naissance, si vous voulez, de l'individualité. Et à la fin de la guerre, il va y avoir une grande controverse qui va opposer deux camps. Ceux qui pensent que les soldats sont morts pour la nation, et qui dit donc qu'il faut tous les regrouper au sein de cimetières militaires. Et une autre partie de la population qui dit non, ces morts sont les nôtres et nous voulons les récupérer dans les cimetières de nos campagnes. Et donc là, il y a eu, à ce moment-là, de grandes discussions et je dirais personne n'a gagné. Il y a eu des cimetières militaires et beaucoup de corps ont aussi été rapatriés dans leur village et leur ville d'origine.
Ce qui veut dire aussi que s'intéresser aux morts, c'est évidemment s'intéresser aux vivants et que la manière dont on en prend soin, on a bien compris qu'elle était fondatrice de notre humanité, elle dit aussi énormément de choses sur nous. Quelles que soient les pratiques envisagées, vous parlez aussi à un autre moment dans cet ouvrage d'une pratique assez étonnante à Madagascar qui est celle du retournement des morts. Alors là, c'est plus en lien avec quoi là ? Avec la sacralisation, la métamorphose du mort ?
Pour moi, si vous voulez, donc ce retournement des morts, c'est un terme européen, puisque les Malgaches parlent de famadienne. Si vous voulez, la question qui se pose, c'est comment envisager le deuil ? En fait, on a deux façons d'envisager le deuil. Je dirais une qui est avec quelque chose qui existe encore. Et ce quelque chose qui existe encore, c'est la tombe, ou quelque chose qui doit être purement intellectuel, et c'est notamment la dispersion des cendres, des défunts dans la rivière, ou le fait qu'ils soient mangés par les vautours, comme au Tibet, etc. Et une fois que si on s'intéresse à ceux pour lesquels on a une tombe, la question qui se pose, c'est pour envisager ce deuil, on a effectivement deux façons, ou bien le sujet va rester dans la tombe, le cadavre va rester dans la tombe, et là, il y a aussi une demande qui va être uniquement intellectuelle, c'est-à-dire de penser ce défunt qui disparaît, mais qui finalement est toujours là, ou une autre façon qui est celle de retourner dans la tombe. Et je donne deux exemples très classiques, qui sont ceux du Cameroun, avec les phallies qui vont reprendre le crâne au bout d'un certain temps, celui des Indiens d'Amérique du Nord, qui ressortaient tous les corps à un moment donné, et ce qui est très intéressant, c'est qu'à Madagascar, avec ce retournement des morts, eh bien, le rite va être effectué autant de fois que la famille le désire. C'est-à-dire qu'on va réouvrir la tombe au bout d'un an ou deux ans parce qu'un membre de la famille va dire « Mon père, ma mère, veut ce famadienne ». Et donc, on va réouvrir la tombe, sortir le corps, l'envelopper dans de nouveaux linceuls en soie qui coûtent très cher, et faire le tour du tombeau plusieurs fois. Alors tout ça est très ritualisé, c'est comme on fait sauter les morts à ce moment-là, c'est pour ça que les Européens parlaient de retournement des morts. Et à la fin de la journée, on remet le mort, bien souvent on en a sorti d'autres, dans le caveau. Et puis on va refaire cet acte autant de fois que la famille va ressentir ce besoin, si vous voulez, de faire revenir le mort. Alors ce qui est intéressant, c'est que chaque fois qu'on ouvre la tombe pour un mort, on en sort d'autres aussi. Et petit à petit, les morts tombent dans l'oubli, c'est-à-dire qu'on le voit, il y a certains films sur...
On ne les ressort plus.
On ne les retourne plus. Alors, on voit, des collègues m'ont décrit ces scènes où quelqu'un rentre dans le caveau et dit « Bon, là, on vient pour chercher ta maman. Alors, ta maman, elle est là. » Et puis, on se tourne et on dit « Mais ces os là-bas, c'était pas ton oncle. Peut-être que c'était ton oncle, mais je m'en souviens plus très bien. Écoute, on va le sortir. » Et puis, hop, on le sort quand même, mais on ne met plus beaucoup de linceul. On met juste un morceau de linceul autour. Et puis, on le fait re-rentrer. Et puis la fois d'après, ben, on ne sait plus qui c'est, quoi. Et donc le mort passe progressivement dans l'oubli, si vous voulez. Mais on est réintervenu autant de fois que nécessaire pour que la famille puisse faire le deuil.
Eh oui, faire le deuil, se séparer, ce qui est le plus difficile. Autour de la question pourquoi tant de rites funéraires et qu'est-ce que nos morts et notre manière de les traiter disent de nous. On peut aussi chanter ces morts avec tout le respect qu'on leur doit et avec humour. Ça sauve même parfois l'humour. La preuve avec notre ami Zao et son incontournable corbillard.
Corbillard, tu m'amènes où? Corbillard, corbillard, tu m'amènes où? Corbillard, je t'amène au cimetière dans ta tombe. Je t'amène à mon barnier dans ta tombe.
je t'amène au cimetière, Père Lachaise. Ah pardon, Corbière, fais-moi descendre, je n'ai pas encore payé mes dettes, je n'ai pas encore touché mon salaire, je n'ai pas encore fait mon mariage. Dis-toi, je dis. Tu es déjà mort, pourquoi tu parles? Tu es déjà mort, pourquoi tu bouges? Tu es déjà mort, pourquoi tu danses? Je t'amène.
Malaga Belena de Joséphine, au revoir. Quand je pense à mon mari, surtout à mon épouse, et encore mes enfants, il ne faut pas vendre ma parcelle. Attention à ma voiture. Malaga Belena.
Le corbillard de Zao, forcément sur RFI, autour de la question des rites funéraires, en compagnie de notre invité, le paléoanthropologue, médecin, légiste et archéologue Éric Rubézy, qui vient de publier « Aux origines des rites funéraires ». Voir, cacher, sacraliser, une formidable enquête de terrain sur les rites funéraires, leur diversité à travers le globe. Nous avons d'ailleurs un exemplaire à vous offrir, chers amis auditeurs. Éric Rubézy, qu'est-ce que cette fréquentation à la fois des cimetières, des morts, des vivants, on n'en sort pas indemne, j'imagine, d'approcher comme ça d'aussi près et d'essayer de remonter un peu le fil de ce formidable mystère de notre condition humaine.
J'espère qu'on en sort indemne, premièrement. Parce qu'effectivement, ça recoupe une des questions que vous me posiez au début, si vous voulez. C'est une interrogation qui a débuté par une étude archéologique. Mmh. Donc, c'est-à-dire des morts déshumanisées, qui ont plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années, qui finalement sont traités avec respect, mais comme des documents archéologiques.
Il n'y a pas de sentiment là-dedans.
Un peu spécifique. Il n'y a pas de sentiment, si vous voulez. C'est un numéro, c'est la tombe avec un numéro. Or, ensuite, ce qui m'a le plus marqué, c'est que j'ai eu la chance de fouiller un grand cimetière à Montpellier, qui était le cimetière de Saint-Côme et d'Amiens, qui est un des plus grands cimetières jamais fouillés en Europe pour l'époque médiévale. Et dans ce cimetière de Saint-Côme et d'Amiens, on avait pu démontrer, si vous voulez, que véritablement, ce qu'on appelle la mort à l'œuvre, c'était assez terrible. On ne savait plus que faire des cadavres, si vous voulez. Le cimetière était tellement étroit qu'ils avaient dû faire des surcharges de terre, puis après, ils n'arrivaient plus à les évacuer. Donc, ils les mettaient dans des caveaux, puis quand ils étaient pourris, ils prenaient les os, ils les réduisaient à la masse, etc. Donc, ce travail était un travail de fossoyeur. Et donc, un jour, avec un ami, on s'est engagé comme fossoyeur il y a une trentaine d'années. Pendant
vous avez travaillé comme fossoyeur,
oui, à Toulouse, pour voir comment ça fonctionnait. Et ensuite, j'ai eu la chance de diriger ce qu'on appelait un groupe d'intervention scientifique sur les sépultures en France, à Lyon, avec un chimiste et une biologiste, où on avait mis des corps dans des caveaux qui étaient suivis régulièrement avec des analyses pour voir un peu ce qu'ils devenaient. L'idée, si vous voulez, ce n'était pas une idée archéologique, c'était pour savoir comment gérer les cimetières en France. Et en même temps, on avait fait une immense étude sur les cimetières français, comment sont-ils gérés, etc. Et ça, là, quand même, c'est quelque chose, je dirais, qui m'a beaucoup plus secoué que les fouilles archéologiques, parce que quand vous participez à l'exhumation de corps qui sont là depuis 2-3 ans, mais très bien conservés dans des caveaux, et que vous en voyez plusieurs dans la matinée, etc. Là, effectivement, les choses sont... Vous n'êtes plus dans ce que je donne en préface, ces beaux cimetières, si vous voulez, ces squelettes sur le côté avec des vases qui ont fait la une de revues d'archéologie et que j'ai eu la chance de fouiller. Là, vous êtes dans quelque chose d'autre qui est effectivement la nécropolis, la ville des morts, quoi, ces cadavres dont il faut se débarrasser. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et qui m'a beaucoup marqué pour justement... envisager le devenir des morts et l'oubli, bien sûr.
Oui, c'est ça, pour vous poser toutes ces questions-là. Et aussi parce que finalement, au départ, et à l'arrivée aussi, j'ai l'impression, Éric Rubézy, ce qui vous intéresse là-dedans, c'est pas tant les morts, ce sont les vivants. Et qu'est-ce que nos morts disent de nous et nos manières d'occuper de nos morts disent de nous. C'est ça, quand même.
Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que l'idée que j'ai développée sur l'étude des cimetières et des ensembles funéraires, c'était cette trilogie, si vous voulez, que j'ai essayé de mettre en évidence en pratique toute ma vie, qui était s'occuper du monde des morts pour essayer de remonter ensuite au monde des vivants, et à partir du monde des vivants, essayer de remonter à l'évolution des hommes et des sociétés. Ça, c'est ce qui a guidé et qui continue de guider mon travail. Mais ce sur quoi j'ai bien insisté, si vous voulez, par rapport à d'autres chercheurs, c'est que notre vue du monde des vivants, les mondes des vivants anciens, étaient en fait étroitement conditionnés à la façon dont ils étaient inhumés. Alors, vous avez un exemple très simple, hein, si on est dans une société où il y a le processus de la crémation pour tout le monde, ben vous ne risquez pas beaucoup de remonter au monde des vivants à savoir quelles étaient leurs maladies.
Bien sûr, il n'y a plus de traces.
Ça, c'est quelque chose qui est... Voilà, il n'y a plus grand-chose, si vous voulez. C'est quelque chose qui est évident. Mais même dans ce monde, quand les gens sont inhumés, ce qu'on a pu montrer, si vous voulez, ça, c'était véritablement une grande partie de mon travail, c'est qu'il y a énormément de biais en fonction des échantillons, parce que tout le monde n'est jamais enterré de la même façon. Il y en a toujours certains qui échappent. On ne connaît aucune société à travers le monde où il n'y ait qu'un seul rite funéraire. Il y a toujours des gens qui échappent, qui sont inhumés d'une façon différente, etc. Et ce sont ces biais, si vous voulez, qui, d'une part, nous renseignent sur le monde des vivants, en montrant quel choix il faisait, donc ça c'est excessivement intéressant, et qui en même temps, si vous voulez, de façon assez pernicieuse, gêne véritablement l'étude du monde des vivants, puisqu'on n'a pas toujours tout le monde.
Et qu'il y a et c'est ce qu'on découvre en lisant votre livre, et qu'il y a aussi une diversité, enfin insensée, j'ai envie de dire, de manière de nous occuper de nos morts. Je vais laisser nos auditeurs le découvrir, peut-être, s'ils ont la chance de gagner votre ouvrage, Éric Rubézy, Aux origines des rites funéraires, sous-titré Voir, cacher, sacraliser, à lire absolument, qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob. Donc, chers amis auditeurs, vous pouvez nous le demander par mail ou sur notre page Facebook. Éric Rubézy, j'ai envie de vous dire à bientôt, parce que j'ai l'impression que quand on commence à tirer ce fil des rites funéraires et de notre rapport à la mort, on n'a pas fini. Donc, vous revenez quand vous voulez, Éric Rubézy, en duplex ou en vrai. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Et je remercie également à France Bleu Toulouse, dans les studios à la technique, Cécile Finet. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur l'appli RFI Pure Radio et sur Spotify. Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses et Caroline Lachowski au micro. Merci de votre fidélité, de votre interactivité et surtout de votre curiosité. Surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure du prochain journal.